L'amphi, l'émission étudiante.
Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale sur un sujet que j'apprécie particulièrement et que je souhaitais vous faire découvrir. C'est un art aux multiples facettes et qui met des paillettes dans nos vies. Je veux parler du drag et je suis très heureux d'accueillir donc dans le studio de Radio Alpa des drag queens du Mans. Avec nous, nous avons donc Pecnotouf, salut.
Hello.
Mais également Babytrix.
Salut.
J'ai bien prononcé, je suis pas sûr.
Babytrix.
Ouais. Babytrix, oui. Super, formidable. Ainsi qu'Agathe de Power.
Bonsoir.
Dans cette émission, on fera découvrir un peu le monde du drag, du moins ce qu'on pourra en découvrir en une heure, car c'est un univers immense et vaste. Nos invités nous feront part de leur expérience de drag queen, de leur parcours, de leurs influences artistiques, etc. Et comme tous les lundis, on terminera cette émission sur une chronique d'Ismaël. Et on commence sans plus attendre cette émission avec nos invités du jour.
Plus on est de fous et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fous et plus on s'emmerde.
Pecnotouf, Babytrix et Agathe de Power, permettez-moi de lever immédiatement le doute qui taraude nos auditeurs et auditrices les moins perspicaces. Non, il ne s'agit pas là de vos vrais noms, mais de vos noms de drag queen. Par exemple, le vrai nom d'Agathe de Power, c'est Brice, Pecnotouf, c'est Jonas, et Babytrix, c'est Calypso. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait en quoi ça consiste d'être une drag queen?
Libre.
C'est vaste.
Être libre, directement.
C'est vaste. Oui. C'est l'expression.
Ouais. Se faire plaisir.
Okay. C'est ça.
Se libérer.
L'absence de tabou, l'expression de son soi intérieur.
Vendre du rêve,
ouais.
Briller en société.
C'est étonnant parce que du coup, c'est pas du tout les définitions qu'on donnerait a priori quand quelqu'un de l'extérieur, quand on l'interroge, qu'est-ce que c'est pour vous le drag, on va plutôt répondre c'est des garçons qui se déguisent en filles ou des filles qui se déguisent en garçons. En fait, est-ce qu'il s'agit simplement de transformisme d'un genre à un autre, quoi?
On joue beaucoup
avec ça. Est-ce qu'il s'agit seulement de ça?
On joue beaucoup avec ça. Après, la vision que j'en ai de ce que j'ai pu entendre après ces plusieurs années, souvent quand vous dites que vous êtes une drag queen, on pense que vous êtes juste un homme homosexuel qui met des vêtements de femme ou que vous êtes une prostituée. Alors que nous sommes à des années-lumière, j'en suis persuadé de ce qu'on fait actuellement, puisqu'on est juste dans une vision où on veut faire de l'art. Alors après, qu'on veut mettre des fossiles, des cheveux longs, chacun fait ses choix artistiques. C'est la liberté, c'est de la performance, c'est aussi une façon de visiter son propre genre.
Déconstruire le genre.
Exactement, casser un petit peu les codes de tout ce qui peut tourner autour de nous sur ce qu'est la féminité, la virilité, la masculinité, tous ces concepts un petit peu hasardeux à mon sens au XXIe siècle. Et puis je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est une de nos membres qui s'appelle David, qui est une femme qui fait du drag king. Donc là, pour le coup, on est sur une femme qui se grime plutôt en homme. Et c'est absolument extraordinaire parce que ça apporte une visibilité qu'on n'a pas l'habitude de voir en plus dans nos collectifs.
C'est ça. Et je pense qu'on a aussi la visibilité que j'apporte dans le collectif. Le fait d'avoir le côté des femmes trans qui font du drag aussi. Pour pas oublier que c'est vrai qu'on a cette image principale, comme tu l'as dit, que le drag, c'est un art qui est pratiqué par les hommes homosexuels qui se travestissent. Parce que c'est la communauté la plus représentée dans le drag à l'heure actuelle. Mais c'est vraiment un art tellement vaste qui peut être pratiqué par n'importe qui. On retrouve vraiment de tout dans l'art du drag.
Ça arrivait sur mes questions pour la fin de l'émission. On y reviendra plus précisément sur cette question-là. D'abord, je voudrais savoir quel rapport est-ce que vous avez avec votre personnage. Est-ce que c'est un double, un alter ego, une prolongation de vous-même? Comment vous le concevez?
C'est un peu tout ça à la fois. Alors moi, j'ai commencé le drag, j'avais 17 ans. J'en ai 30 aujourd'hui.
Ok.
Ça a été une façon pour moi de me construire. Et alors, les gens me regardent avec de grands yeux et se foutent de moi quand je dis ça, mais ça m'a appris à devenir un homme. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais hyper efféminé. Et le fait de faire drag queen, ça m'a permis de canaliser une féminité, de l'exploiter aujourd'hui, de vivre ma masculinité telle que je l'entends aujourd'hui. Et ça a été peut-être une thérapie, ça aussi. Certains... Enfin, je l'interprète comme ça et qu'on puisse me taxer de fou, et bien tant mieux. Alter ego, oui, double, tout ça, c'est très juste aussi.
C'est vrai.
Et qu'ils ont tout fait Bibitrix, vous êtes d'accord avec ça?
Ouais, grave. Bah, moi, mon personnage, je le vois surtout comme un moyen de m'exprimer d'une manière que je pourrais pas le faire en n'étant pas en drague. Mmh. Et d'avoir aussi un milieu et un endroit où je peux être compris par des gens qui sont comme moi, ou même tout simplement des gens qui font pas du drague, mais qui ont envie, enfin, qui peuvent pas forcément, eux, s'exprimer. Donc, moi aussi, prendre la parole à leur place des fois quand ils peuvent pas le faire.
D'accord.
Et ça, ça fait du bien.
On est beaucoup un porte-voix.
Ouais. Okay.
Pour des communautés, pour des causes qui nous tiennent chères, malgré les contextes politiques et socioculturels qu'on peut rencontrer. Il y a toujours matière, en tout cas, à avoir des discours un peu plus militants.
Et alors, comment est-ce que vous avez été amené à en faire du drag, en fait? Parce que c'est compliqué de tomber là-dedans, en fait, entre guillemets. Enfin, comment on entre dans ce milieu-là?
Alors, moi, pour ma part, personnellement, c'est tombé avec l'univers de Drag Race, du coup. Donc, l'émission, au début, je connaissais pas. Et ma initiale émission, je suis directement tombée amoureuse de l'émission. J'ai adoré ça. Et j'ai décidé un jour en terminale de commencer à me maquiller dans ma chambre. Donc, c'était, si on peut appeler ça du maquillage, c'était plus un cahier de brouillon, quoi. Mais ouais, j'essayais. Et puis, au final, avec le temps et avec l'exercice, j'ai rencontré Agathe, du coup, qui m'a donné ma première opportunité. Mmh. Et c'est comme ça que je suis vraiment tombée dans la soupe, quoi, et que j'ai pu continuer.
Ça marche. Et Pecnotouf, c'est arrivé comment?
Bah, moi, j'ai toujours fait un peu de danse, tout ça. J'ai toujours aimé m'exprimer sur scène. Mmh. Puis un jour, il y avait eu un petit festival à côté du Mans qui s'appelle le Bal des Domestiques, maintenant qui n'existe plus.
Bien dans le micro, par contre.
Ah, oui. J'étais au Bal des Domestiques, un festival qui n'existe plus. Et il y avait une petite scène où j'ai passé tout mon week-end à m'exprimer dessus, et, en essayant des déguisements, tout ça. Mmh. Donc je pense que... l'univers du drag m'est tombé un peu dessus à ce moment-là. Et puis on a Betty qui est dans notre collectif, qui est passionnée de drag, qui m'a beaucoup forcé à me lancer. Et au final, je ne regrette pas du tout, parce que j'ai clairement trouvé ma voie.
Alors, ça fait plusieurs fois que vous parlez d'un collectif. Qu'est-ce que c'est, ce collectif?
Les Blue Dolls.
Les Blue Dolls,
Ok, ça consiste en quoi?
Eh ben, on est plusieurs, on organise des événements récurrents puisque nous sommes en résidence au Bouzin, qui a mis la Libération. On a beaucoup commencé avec les Bingo Drag Queen.
Ouais.
On est en train de se diversifier un petit peu avec les blind tests, avec des soirées thématiques. Là, par exemple, la prochaine soirée, on rend hommage à la décennie 2010-2019.
Okay.
Avec un blind test et d'autres petites surprises que je ne dirai pas ici. Le mois prochain, je vous spoil un petit peu, on va rendre hommage à Lady Gaga.
Yeah.
Okay. Ce sera l'occasion de faire une scène ouverte pour les jeunes drag queens du Mans ou d'ailleurs qui veulent se lancer. Et faire la première fois. Et l'idée du collectif, c'est de rassembler des compétences, des ressources pour permettre à cet art d'exister au Mans.
Ok, merci beaucoup. On revient un peu sur votre personnage de drag queen. Comment est-ce que ça se construit, en fait, un personnage de drag queen? Comment on en vient, par exemple, à lui trouver un nom? Est-ce que c'est le nom qui donne le reste? Est-ce que c'est plutôt le reste qui amène à un nom? Comment ça marche?
Vous avez qu'à
alors. Je pense que c'est un mélange d'énormément de choses. Personnellement, la construction de Bibitrix, ça a été à l'inverse de ce que Brice a pu dire tout à l'heure. Ça a été le fait d'entamer ma transition, de me découvrir en tant que femme. Ça me permettait d'exprimer ma féminité et d'apprendre et de comprendre comment être une femme dans la société actuelle. C'est sur ces bases-là que s'est construite Bibitrix. Et après, pour ce qui en est de trouver le nom de son personnage drag, je pense que c'est assez propre à chacun. Moi, c'était assez chaotique quand même. Je me suis dit Trix, qui veut dire un peu des tours en anglais, mais j'ai tourné la déclinaison pour pas que ça soit écrit de la même manière, évidemment, et Bibi, parce que c'est ça, c'est Bibi, je sais pas, ça rappelle une forme de sensualité, parce que Bibi, c'est un prénom très connoté aux États-Unis, etc. Donc je pense que c'est vraiment un mélange, c'est très propre à la personne, je pense.
Et alors, Pecnotouf, et puis Agathe Da Power, j'adore le nom Agathe Da Power, le jeu de mots me fait trop rire, c'est génial.
Moi, à la base, c'est parce que sur les réseaux sociaux, je m'appelais Technopouf à l'ancienne.
Et Technotouf est incroyable. Là, comme
et Technotouf, la contrepétrie, du coup, s'est créée toute seule. Au final, moi, c'est mon nom qui inspire totalement mon personnage drag, ce qui n'était pas du tout le cas au début. J'ai vraiment une vision très carrée de ce que je voulais. Mmh. Puis au final, à force de performer, à force de faire des events, mon personnage est totalement construit et intégré avec le terme pecno que j'utilise, où je fais vraiment un peu n'importe quoi sur scène, je me lâche.
Oui, d'ailleurs, t'as un drag qui est assez particulier, je dirais, punk, un peu flippant même parfois. En tout cas, tu incarnes un personnage qui n'est directement ni assimilable au genre masculin ni au genre féminin. Est-ce que c'est ça aussi, le drag, instaurer un flou entre les genres?
Bah, moi, du coup, je permets de reprendre un terme. Moi, je suis pas drag queen, je suis drag queer. Et
d'accord.
Du coup, c'est du drag plus non-genré, où vraiment, je m'affranchis de tous les codes du genre, et puis limite aller vers plus la créature et le fantôme, le punk, le gothique.
Ça marche.
Tout ça.
Voilà, on passe de très bonnes soirées en tout cas.
Ça se lâche.
On sait jamais ce qu'elle nous prépare, mais.
C'est ça. C'est la surprise.
Et donc, Agathe Dapower, tu nous as pas dit comment le nom est venu?
Eh ben, une chanson que j'ai entendue à la radio qui disait « I've got the power ». Et je me dis, c'est marrant, on dirait le nom d'une pétasse qui s'appellerait « Agathe the power ». Et c'est venu comme ça.
D'accord.
Et comme c'est une illusion auditive qui veut dire « j'ai le pouvoir », c'était ma meilleure définition à l'instant T du drag et c'est resté.
Ben super. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs types de drag, non? On a commencé à en parler un peu. D'ailleurs, vous avez des drags qui sont très différents les uns des autres. Alors, je crois qu'il y a le glam, le freak. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents types, les plus grands courants, on va dire?
Le plus gros, les drag queens, déjà. Enfin, ce qu'on entend, ce qu'on voit.
Je pense que les trois plus gros qu'on peut observer, on va dire que c'est celles qui sont très axées sur la comédie, donc ça va être les camp queens.
Okay.
Donc c'est vraiment, c'est axé sur la comédie, sur le fait d'être drôle, la caricature. Après, on a le glam drag, comme tu l'as dit. Donc c'est ça, c'est tout ce qui est axé sur la mode, axé sur le fait d'être très belle, très apprêtée, etc. Et après, on a ce qui tourne un peu autour de l'univers club kid et non-genré, comme l'a précisé Pecno. Donc c'est vraiment, on va dire, les trois grands axes du drag, ou du moins des drag queens.
Et j'imagine qu'il y a toujours des mélanges un peu entre ces différents axes.
Oui, bien sûr.
Le drag, c'est vraiment un art pluriel, donc ça peut vraiment aller toucher à tout et aller au maximum de ce que les gens ont à offrir.
Oui, parce que c'est ça, c'est aussi un art qui permet aussi d'aller piocher dans les autres arts. En fait,
c'est
un art qui n'a aucune limite.
Oui.
Alors, une petite question un peu au nez au cerveau que j'aurais dû poser tout à l'heure d'ailleurs quand on parlait du flou entre les genres avec Pecno Touf. En fait, le drag, est-ce qu'il s'agit de mélanger les genres, d'instaurer un troisième genre ou bien d'abolir le genre?
D'abolir. Pour moi, je pense que c'est vraiment abolir le genre.
Ça se rapproche plus de l'abolition du genre ou du fait de flouter le genre.
Ouais.
Mais c'est pas l'instauration d'un troisième genre, absolument pas, je pense. Ou alors c'est peut-être un moyen d'expression de son genre, de pouvoir définir son propre genre, mais c'est pas... c'est plus, je pense que ça se rapproche plus de la pollution.
Je vois une mine circonspecte de Brice aka Agathe de Power.
Non, parce que c'est pas une question facile du tout. Quelque part, je me dis abolir peut-être pas, instaurer un troisième genre, pourquoi pas. Enfin, chacun veut y voir ce qu'il veut, en fait. C'est une démarche plutôt personnel quand je fais du drag. Après, que les gens y voient un acte militant pour imposer un troisième genre, bah tant mieux pour elles. Moi je sais que c'est pas mon but en tout cas. Moi je suis là pour faire rêver les gens, ni plus ni moins. C'est tout ce que ça m'inspire en tout cas.
Chacun en fait a un peu sa démarche quand il fait du drag.
Exactement.
Chacun donne son vécu avec le drag, chacun donne sa vision des choses, sa vision du genre et tout.
J'imagine que c'est très lié aussi à ce que ça vous apporte personnellement,
Exactement.
Directement.
Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement à chacun d'entre vous?
Oula.
C'est libérateur.
C'est très libérateur.
C'est cette notion de liberté qui revient.
Pour caricaturer la chose, mais encore c'est à peine caricatural et je le dis depuis longtemps, il y a des gens, ils sont passionnés par le bricolage, par la natation. Nous, on met des fossiles et des talons. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser.
Mais ce n'est pas une passion d'homme.
Tant pis, il y a bien des hommes qui sont coiffeurs, il y a bien des femmes qui sont maçons, on fera avec.
Exactement.
Non, c'est surtout, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un art où on peut s'exprimer librement, sans tabou, ou en tout cas quand on trouve les bons endroits.
Oui, c'est
et,
ça.
Et
les bonnes personnes.
Oui, les bonnes personnes aussi.
Oui.
Mais ça vous est arrivé d'être jugé, d'être mal reçu?
Oui, ça arrive. Bah, y a encore des gens qui ont des petits problèmes avec le drag, même si ça commence enfin à se démocratiser. Il y a toujours des gens qui ont... qui s'appelait pas quoi,
c'est et ça, ouais, qui nous prennent pour des travelots, voilà.
Ouais.
C'est ça, c'est l'image de.
Puis ou même le fait de pas considérer notre art comme un art, parce que vu qu'on chante pas vraiment sur scène quand on fait des lip sync, bah on fait pas vraiment, enfin on fait pas vraiment de l'art quoi, donc. Alors qu'au final il y a plein de choses, genre ouais, on est make-up artiste, on est danseuse,
les écouturières,
fabriques.
On reviendra un peu sur l'aspect plus professionnel du drag et aussi sur sa démocratisation. D'abord, on va reparler de l'émission dont Baby Trix s'est parlé tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas Drag Response, Drag Race tout court, on va en parler plus en détail. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Birds in Row, Maroura et Unschooling, soirée Indérama aux Saunières le 16 mars, en appelant 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Madame Claude de Thérapie Taxi.
Monsieur a une moustache et du rouge à lèvres. Monsieur, il sait qu'il est belle. Monsieur, il sait qu'il est belle. Monsieur est fasciné par son propre corps. Monsieur se trouve incroyable dans cette putain de robe. Monsieur est doux. Monsieur est faux. Monsieur est pailleté pour la soirée. Monsieur est Monsieur est Monsieur est parfait pour ce baiser.
J'ai tout de la boîte. Tu m'as regardé. Je sais que je suis belle. Abandonnée. J'ai fait le tour de la boîte. Tu m'as regardé. Je sais que je suis belle. Je vais pas mourir d'angoisse pour tes beaux yeux. J'ai de l'amour et des bagues dans les cheveux. Je vais pas perdre la face devant tes amis. Je me sens bonne et dégueulasse si j'ai envie.
Regarde-moi tendrement dans les yeux. Je suis le garçon de la vie que tu veux. Et souris-moi lentement dans le club. Je suis la version de ta vie beaucoup mieux.
Monsieur une moustache et du rouge à lèvres. Monsieur il sait qu'il est belle. Monsieur il sait qu'il est belle. Monsieur une moustache et du rouge à lèvres. Monsieur il sait qu'il est belle. Monsieur il sait qu'il est belle.
C'est bizarre, je me sens tout drôle. Ce mec me fait un truc dans le ventre alors qu'il est sapé en femme.
C'est bizarre, je me sens tout drôle. Ce mec me fait un truc dans le ventre alors qu'il est sapé en femme.
Je vais pas mourir d'angoisse pour tes beaux yeux. J'ai de l'amour et des bagues dans les cheveux. Je vais pas perdre la face devant tes amis. Je me sens bonne et dégueulasse si j'ai envie.
De retour dans l'amphi pour la suite de cette émission spéciale drag. Je suis toujours avec nos drag queens du Mans, enfin drag queen et drag queer du Mans.
Merci.
Brice alias Agathe de Power, Peknotouf alias Jonas, et enfin c'est plutôt Jonas alias Peknotouf dans cet endroit-là, c'est mieux, et Calypso alias Bibitrix. On a parlé un peu de vos personnages, de votre façon de faire du drag d'un point de vue artistique. Je voudrais maintenant qu'on se penche davantage sur l'aspect professionnel de la chose. Concrètement, quel est le travail d'une drag queen en fait ?
Oula, beaucoup de choses. Ouais. Énormément de choses.
C'est-à-dire ?
Si on peut faire un petit truc global, je dirais directrice artistique, metteuse en scène, ouais.
Couturière,
make-up artiste,
faut être danseuse, faut avoir de la répartie, faut avoir de la rhétorique, faut avoir des dons de maquillage, faut avoir des dons pour porter des talons, faut avoir des dons pour
cardio.
Porter la tenue et pas que ce soit la tenue qui te porte.
Exactement.
Voilà.
Porter la tenue et pas que ce soit ta tenue qui te porte, c'est-à-dire ?
Eh ben, c'est-à-dire que la tenue doit te rendre belle, parce que si c'est l'inverse, ça marche pas.
Ouais. Et alors, en quoi consistent vos performances, en fait ?
Oula, c'est vaste. C'est vaste. Et je pense que là, c'est très bien, parce que on en parlait tout à l'heure.
En off.
On a une diversité. On a vraiment trois types de performances qui sont totalement différents.
Ouais.
Toi, tu vas être plus pecno dans la danse, dans l'impro, dans le moment.
Une très
C'est ça.
Une furie.
Ouais.
Pas peur de
une
péter ses talons.
Mais et moi, je vais être plus dans la sensualité, dans tout ce qui est très très glam, très féminin, etc. Toi, tu vas plus être Agathe dans la performance aussi, côté danse, t'aimes bien parler aux gens.
Mais... Beaucoup d'humour aussi.
Ah oui, j'aime bien les interagir avec eux. Ouais,
c'est
ouais.
Ça.
Ça, j'aime bien.
Mais t'interagis avec le public ?
Ah ouais.
Ouais, d'accord.
C'est ça. J'adore ça.
Mais même dès qu'on performe, c'est obligé d'avoir un contact avec le public, parce que sans le public, en plus, on pourrait pas... s'exprimer.
Papy s'ennuierait.
Ouais.
C'est ça.
Faut les faire participer.
Faut les inclure.
Le pauvre.
Donc quand même, quand tu fais un spectacle de danse, il y a une forme de mince, j'ai oublié le mot, d'interaction avec le public, quoi.
Ouais.
Ok.
Bah, souvent, ça peut être par lancer des trucs dans le public, pour qu'ils aient au moins un petit souvenir à la fin de la performance. Donc souvent, tu fabriques des petits trucs où il y a ta tête dessus.
Distribution
des
drags
de l'art, par exemple.
Ou même
distribuer des préservatifs des fois, ou même inviter des gens sur scène pour venir performer avec toi.
Oui, c'est ça. Quand tu performes, quand tu passes entre eux, t'interagis avec eux.
Leur faire un petit bisou sur la joue de temps en temps.
Et alors, dans quel lieu est-ce que vous travaillez ? Vous avez parlé du Blue Zinc, c'est ça ?
C'est ça.
En fait, le Blue Zinc, c'est l'endroit qui vous donne le lieu pour performer dans le cadre de votre collectif.
Ouais, exactement. En résidence chez eux. Ouais.
Mais ça vous arrive de performer ailleurs, du coup ?
Ça nous est arrivé.
Ça nous est arrivé. Ça fait un petit bout de temps, mais...
Moi, je performe sur Rennes régulièrement avec un collectif qui s'appelle le collectif Noctem.
Ok.
Et qui font des soirées techno, queer, drag. Donc, du coup, il y a des DJ queer, tout ça, qui mixent. Et à côté, il y a les drags qui performent pendant les events.
Donc, c'est des bars, c'est des boîtes, c'est quel genre d'endroit où vous intervenez, en fait ?
Ça peut aller de
ça
tout,
aller
en vrai.
De tout.
Ça peut être les tout. C'est vrai que pour le moment, on a fait beaucoup des bars.
Ouais.
Avant qu'on se rencontre... j'ai un petit peu de bouteille pour le coup, mais j'ai commencé en boîte. Ma première vraie soirée, c'était à l'époque de Secret Story.
Ok.
Putain de
toi. Ah ouais, non mais oui, je suis ancienne. J'avais fait la soirée avec, à l'époque, deux candidats. Je t'entends, toi, à dire des sur moi. J'avais accueilli la soirée à l'époque. C'était Benoît et Thomas, d'anciens candidats, qui étaient les deux homos de la saison. Et ça, je m'entendais toujours.
Iconique.
Parce que c'était une de mes premières soirées, vraiment, où j'étais out, pour le coup. Et c'était extraordinaire. Et puis, les boîtes de nuit, bon, il arrive un moment où je pense que t'as un petit peu fait le tour. On va dire que c'est un petit peu le ring d'échauffement quand t'es une drague, et après tu vas ailleurs, quoi.
Alors, malgré vos pratiques très différentes du drag, vous êtes rassemblés sous ce collectif. Mais est-ce qu'il vous arrive du coup de performer ensemble, ou alors est-ce que c'est toujours des performances individuelles ?
Oh, on en a fait ensemble.
Ouais.
Oh, oui. On en a fait ensemble.
Bah, souvent, on aime bien, pendant nos bingo ou des trucs comme ça, d'avoir toujours un petit moment où on est tout ensemble sur scène pour faire un petit mot au revoir, enfin une petite chanson d'au revoir au public ou un truc comme ça.
Okay.
C'est ça.
On aime bien se rassembler.
Même pour réagir sur des moments de société.
Ouais.
Moi, je me souviens, il y a peut-être C'était début 2023, on avait, avant de faire le bingo, on avait réagi parce que la veille ou l'avant-veille, il y avait eu un suicide d'un jeune collégien, je me souviens.
Je crois.
C'était en janvier 2023, je crois. Et vraiment, on avait pris 5 bonnes minutes au début pour parler toutes l'une après l'autre, vraiment pour réagir et faire réagir le public, tellement on trouvait ça mais assourdissant qu'en 2023, on en soit toujours à ce...
Et même pas que en 2023. Ouais, en 2023, enfin, que...
Ouais, parce qu'en 2024, c'est toujours l'actualité pour le coup. Mais ouais.
Et alors, est-ce que vous vivez du drag?
Alors, non. Malheureusement, je pense que hors Paris, c'est pas possible. Je pense que quand on sort de Paris, c'est pas possible de vivre du drag à l'heure actuelle en France. Nous, c'est pas possible. Au Mans, vu le nombre de shows qu'on fait... on peut pas se permettre de vivre du drag, ça rapporte pas.
C'est surtout que pendant les gigs, souvent, j'ai utilisé le mot gig. les gigs, c'est les représentations drag qu'on puisse faire, mais souvent les endroits qui nous accueillent veulent surtout payer en ticket boisson, sauf que on va pas,
ça paye pas
payer
le
loyer,
un loyer
à base de gin tonic. Ouais.
Et souvent les drag queens qui sont les plus professionnalisées, que l'on peut suivre sur Instagram. Moi, elles m'ont toutes dit, mais drag queen, c'est juste la vitrine. Derrière, on est des producteurs d'événements, on est des réalisateurs, des producteurs. Ouais. Donc, on connaît le système. Et la drag queen, c'est juste la pointe de l'iceberg que vous voyez. C'est tout.
C'est ça.
Ça marche.
Donc, vivre du drag, oui, mais sous condition d'avoir derrière le background qu'il faut.
D'être un couteau suisse.
Et alors, quand on vous voit avec tous ces vêtements, ce maquillage, on dit que ça doit prendre un temps de préparation extrêmement long, non?
Ouais.
Ça dépend de la personne.
Ça dépend aussi de la DA de la soirée.
Oui, ça dépend de la personne, du thème, etc.
Ouais.
Et je pense que si ça dépend depuis combien de temps la personne fait du drag, parce qu'au bout d'un moment, on connaît son visage. On connaît son visage par cœur.
C'est le maquillage qui prend beaucoup de temps en fait, parce que
le plus.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est vrai que c'est des maquillages très bluffants, quoi. C'est pas juste des maquillages qui ont le visage un peu féminin, quoi. C'est que ça transforme vraiment le visage pour le coup.
C'est
quoi.
Bah, c'est toute une reconstruction du visage et tout.
Ouais, ça prend, allez, au moins 1h30.
Ça dépend. Parce que moi, je sais que des fois, j'ai pu passer 5 heures sur des maquillages.
Ah oui,
5 heures.
Oui. Mais bon, elle est un peu lente quand même. Mais
c'est surtout que j'aime bien les des clopes entre eux.
Mais c'est vrai que ça varie. Moi, je sais que à l'heure actuelle, maintenant, après bientôt 7 ans de drag, je sais que si je me dépêche, je peux faire mon make-up en 45 minutes.
Ah oui,
mais faut vraiment que je sois pressée, quoi, et que c'est plus du feu sous les fesses, c'est la lave, quoi. Il faut le prendre.
Et encore, t'as la chance d'avoir un visage féminin.
Oui, c'est ça.
Parce que quand on a les traits un peu plus anguleux.
C'est ça, faut cacher les ongles un peu masculins quand on veut devenir un personnage féminin.
La mâchoire, le nez, les arcades, tout ça.
Les sourcils.
Et puis la bosse entre les jambes.
Oui, le tucking.
Alors oui, le tucking, il y en a un mot un peu technique. Est-ce qu'on explique ou pas ce que c'est?
Voilà. Les enfants, bouchez vos oreilles. Alors.
Qui veut parler du tucking?
Tu ramènes tout derrière, tu mets un morceau de scotch et voilà.
Tu
rentres dedans et tu ramènes derrière.
Oui, voilà.
Ouais, c'est ça.
Alors moi, il y a une question qu'il faut que je vous pose par rapport à cette pratique, parce que là, j'en ai entendu parler sans l'avoir pratiqué moi-même. Est-ce que c'est douloureux?
Oh, bien sûr que oui.
Mais vous arrivez à performer avec le barda tiré en arrière avec du scotch comme ça, ça doit être horrible.
C'est pas agréable. Le drag, c'est pas un art agréable. Il faut pas avoir peur de la douleur pour faire du drag. Ça, c'est sûr.
C'est très désagréable.
On est souvent des gens qui ont été bien embêté dans la vie, donc souffrir, ça ne fait pas peur.
Oui, c'est ça. Mais oui, non, c'est pas agréable. Mais oui, on arrive à performer avec. Mais bon,
Je fais pas de tucking.
Oui, voilà, tout le monde le fait pas parce que c'est pas obligatoire.
Oui, c'est un choix. C'est un choix.
Moi, je le fais tous les jours parce que voilà. Mais j'aime souffrir. Mais non, c'est. On arrive à le faire. Bon, après, je pense qu'on est toutes contentes quand on l'enlève, quoi.
J'imagine bien. Et alors, comment est-ce qu'on apprend toutes ces préparations, tous ces petits détails et tout ça? C'est en autodidacte. Comment est-ce qu'on trouve sa place dans le milieu du drag? Il y a un système de marrainage, c'est ça?
Tout dépend. Il y en a, je sais, surtout avec les réseaux sociaux et tout, ces derniers temps, où il y a beaucoup de drags qui apprennent à faire du drag grâce aux réseaux sociaux, aux vidéos YouTube et tout. Il y a pas mal de gens qui expliquent comment se mettre en drag. Ou sinon, comme nous, un peu, ça s'est passé. Notre mother, Agathe de Power, qui nous a un peu pris sous son aile, qui nous a donné pas mal de conseils et tout. Enfin, voilà.
Ouais, parce que le rôle d'une Mother, justement, c'est ça, c'est de prendre les nouveaux sous son aile. Ouais. Quoi. En fait, il y a une forme de communauté soudée entre drag queens.
Ouais.
Ouais.
D'accord. Même si on est très shady entre nous, derrière, il y a toujours.
Shady, c'est-à-dire.
On se lance des piques.
Ouais, vous avez des piques, ouais, d'accord.
Mais il y a toujours de la bienveillance derrière, ouais. De l'entraide. Parce que vu qu'on fait partie d'une communauté, on est mis à l'écart, on est victime de beaucoup de trucs hardcore. On se retrouve entre nous et on s'entraide, quoi. Et on s'écoute.
On a souvent vécu les mêmes histoires, on est tous des gueules cassées, des survivants de harcèlement scolaire ou de je ne sais quoi. Enfin, quel est aussi un moteur,
ouais.
Je pense, en arrière-fond.
On en vient donc peu à peu à l'aspect politique du drag, mais d'abord, je voudrais parler d'une émission qui, il me semble, a fait beaucoup pour la popularisation du drag partout dans le monde. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. D'ailleurs, Bibitrix en a parlé tout à l'heure. C'est évidemment RuPaul's Drag Race. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette émission?
C'est comme la Starac, mais avec des drag queens.
C'est ça, c'est ça.
C'est parfaitement résumé, c'est formidable. Alors, à la différence près, peut-être que dans la Starac, il suffit de chanter, quoi.
C'est ça. Alors que là, drag queen, il faut
savoir tout faire.
Faire du lip-sync. Du lip-sync.
Alors, qu'est-ce que c'est le lip-sync, d'ailleurs?
Pardon?
Le lip-sync, qu'est-ce que c'est?
Synchronisation labiale, donc playback.
Ok, ça marche.
Donc, vous chantez, bougez les lèvres par-dessus une bande-son. Après, c'est vrai que dans la
Grèce, il y a beaucoup...
Faut connaître la chanson par cœur.
Ouais,
c'est ça.
Ah oui, donc faut des qualités de mémorisation énormes pour être drag. Et puis il y a beaucoup de défis qui sont lancés aux nénettes qui font ça, que ce soit de la couture, que ce soit de la comédie, de la musique, il y a vraiment plein de choses. Elle va faire des spots publicitaires et moi je trouve ça très très drôle à chaque fois.
Faut être très polyvalent en fait.
Ouais.
Quoi.
Ah, oui.
C'est ça.
Vas-y.
C'est souvent décrit comme les Jeux Olympiques du drag.
Alors vous pouvez, oui d'ailleurs, si, il y a un personnage quand même dont il faudrait qu'on parle, c'est qui, RuPaul?
C'est le Donald Trump des drag.
C'est ça.
Alors je sais pas si c'est un compliment du coup.
Non.
C'est, oh là là, comment expliquer qui est
C'est la
RuPaul.
Personne qui a démocratisé le drag dans la fin des années 90 à peu près. Alors c'est la plus grande drag queen déjà en termes d'audience, mais aussi en termes de taille, puisqu'elle fait 1m98 ou 17, je crois.
Sans talons.
Sans talons. Et
c'est un géant dans tous les sens du terme.
C'est un mastodonte. Elle a un empire en dessous d'elle. Et c'est celle qui a lancé la franchise RuPaul's Drag Race aux USA, et puis petit à petit, elle a lancé la franchise dans d'autres pays.
Quasiment tous les pays
aujourd'hui. C'est vrai.
Elle avait une webcam, un filtre Instagram et un rêve, quoi. Genre, c'est...
Et alors, vous regardez cette émission, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Moi, je regarde plus trop RuPaul Drag Race.
Peut-être plus Dracula.
Mais parce que je préfère Drag Race France, parce qu'en France, les dragons ont un vrai level incroyable.
Parce qu'on a attendu très longtemps une saison de Drag Race en France. C'est arrivé il y a 2 ans, la première, c'était en 2022. Peut-être,
je sais plus. 2022, oui.
Ouais. Et effectivement, j'avais été moi-même très surpris. Parce que j'avais peur, effectivement, que le level soit pas la même chose qu'aux États-Unis. Et en fait, finalement, c'était très bien.
Ouais, c'était.
Ils ont un sacré level.
Et la dernière saison a été la saison la plus regardée, toute franchise confondue.
Ouais.
Ah ouais,
c'est ouais.
Ce
d'accord.
qui a fait un audimat.
Surtout le premier épisode, il me semble.
Ouais.
Je sais plus combien de. Ça se comptait presque. C'était 1 million, non, il me semble. Million
facile, plus facile. Hein.
Ouais.
Enfin, en tout cas, allez regarder Drag Race France, c'est disponible sur France TV/. Et alors, les drag queens qui participent à ce jeu doivent être multifonctionnels, on l'a dit. Une des épreuves phares du show, c'est le Snatch Game, un jeu d'acting et d'improvisation. Alors, on va écouter un extrait d'une émission. Je vous mets au défi de deviner de la performance de quelle drag queen il s'agit. Donc, ça va être de Drag Race France, pour qu'on puisse comprendre ce qui est dit.
Vos buzzers, les filles.
Je pense que vous allez trouver facilement. C'est parti.
Fanny Ardant.
Chacaca.
Bonsoir, Fanny.
Bonjour, RuPaul.
Alors moi c'est Nikki.
Vous êtes homosexuel quand même?
Oui.
J'adore les homosexuels. C'est tellement romanesque. Moi-même j'aurais adoré être un homme homosexuel. J'adore les crabelots. Quelle était la question? Où sommes-nous?
Nous sommes au Snatch Game en Drag Race France.
C'est presque cosmique ici.
Ça allait beaucoup plus grâce à vous aujourd'hui. Merci Fanny.
Se tirer sur la tige.
Se tirer sur la tige.
Moi aussi j'aime bien tirer sur la tige.
Vous aimez bien tirer sur la tige?
À l'occasion, oui, de temps en temps. Moi, je suis une aventurière, vous savez. J'adore Patrick Sébastien. Il est tellement romanesque. Vous savez que j'ai été sa maîtresse.
Ah bon? Merci, Madame Ardant.
Caviar. Du caviar. Toujours du caviar. Quand une femme ne veut plus, ce sont les derniers œufs qui lui restent. Moi, je veux faire la fête, je veux me lâcher.
Est-ce que vous allez toujours en boîte, Madame Ardan?
Mais je vais en boîte, je me fais mettre en boîte. Je déboîte. Moi, je fais du rap, du hip-hop, du clip-clap. Moi, je veux de la boulette. Elle est où, Diams?
Voilà, donc c'était donc un extrait de Snatch Game, une des épreuves auxquelles doivent faire face les candidats d'EuroPaul's Drag Race, oui. Donc là, en l'occurrence, c'était Drag Race France. Est-ce que vous avez deviné qui c'était?
Paloma, la gagnante de la saison 1.
Exactement, c'était en effet Paloma, gagnante de la première saison de Drag Race France, incarnant ici Fanny Ardant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail en quoi ça consiste le Snatch Game, en fait?
Oh, bah, je pense qu'on va laisser ça à Agathe. Ça.
J'en étais sûr. Ouais. Alors, on doit. Alors, là, on se rapproche pour le coup du transformisme parce qu'on doit imiter une personnalité existante. Et le but, c'est. Vous avez un animateur qui vous pose des questions, qui vous donne des textes à trous. Et le but, c'est de remplir les textes à trous avec ce qui vous semble la bonne réponse.
Ouais.
Ça doit venir comme ça du tac au tac, mais le but, c'est de faire rire. Mm. Plus vous faites rire, plus vous avez des chances de gagner.
Ok. Et alors, pourquoi est-ce que c'est une épreuve à la fois redoutée et attendue avec impatience par les candidates?
Parce que presque toutes les dragues se foirent.
Je pense que, et c'est souvent dit dans l'émission, dans toutes les saisons, toutes franchises confondues, peu importe le pays, c'est ce qui sépare les pros des amateurs. Ouais.
C'est là où on voit vraiment qui a une chance d'aller en finale et qui
va bien partir. C'est vraiment là qu'on voit un peu le
et
le
c'est
podium.
Là qu'on voit le plus si l'artiste qu'il y a derrière a de la personnalité.
Mmh. Ouais.
Et si c'est pas juste quelqu'un qui est là pour grimer des drag queens déjà existantes, en fait.
Ouais. C'est ça. Si c'est pas juste une personne qui, et on a eu l'exemple dans la saison 1 de Drag Race France, si c'est pas juste une personne... Oui, on a dit que les drag queens étaient shady. si c'est pas juste une personne qui vient avec des belles perruques et des belles tenues faites par des designers et des perruquiers qu'ils ont en relation. Mmh. Voilà.
Donc en fait, c'est en imitant la personnalité de quelqu'un d'autre qu'elles révèlent en fait si elles ont de la personnalité. Quoi. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors on fait à nouveau une pause pendant laquelle on écoute la chanson Paloma de Paloma et Rebecca Warrior. Et pendant qu'on écoute ça, vous pouvez gagner une place pour Ella Atone, Damaria et En attendant Anna. Soirée Indérama à Jean Carmé le 15 mars en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute Paloma de Paloma et Rebecca Warrior.
Je déambule tard dans la ville. J'ai mis mon plus joli visage. Je suis agile et volubile. Mais c'est grâce à mon maquillage. Qui sait qui je suis dans le fond? C'est mon secret le mieux gardé. J'ai beau m'afficher ma vision, reste le caché, mon cœur brisé.
Je suis toi et tu es moi, Paloma.
Retour dans l'amphi pour la fin de cet échange avec les drag queens du Mans. On vient d'écouter une chanson sur Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race France, où elle exprime tout de même un certain mal-être, l'impression de ne jamais être à sa place. Est-ce que c'est un sentiment qui est partagé au sein de la communauté drag?
Oh, sûrement.
Bah, oui. Oui, je pense.
Comme on ne trouve pas notre place, et bon, on va la créer, c'est pas
grave. Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
C'est ça que les Blue Dolls sont nés.
Oui.
Créer nos...
Il y a une forme de combat politique en fait mené par le drag.
Ouais. Ah oui, le drag, ça ne peut pas ne pas être politique.
Ouais.
C'est, je pense que chaque personne apporte quelque chose au combat politique pour la cause LGBTQI+, via le drag. Moi, je peux parler de mon expérience personnelle. C'est... Mon drag, c'est énormément du militantisme pour la cause transgenre. Étant donné que c'est quelque chose qui me représente et que c'est grâce au drag que j'ai appris à être une femme, je veux montrer surtout à la jeunesse trans qui a peur de faire un coming out ou de s'exprimer ou d'être soi-même, qu'on peut faire des choses, on peut réussir, on peut arriver à atteindre ses objectifs en étant trans. C'est pas une barrière, que c'est pas un frein, que c'est pas une finalité. Donc
ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie éthique du rassemblement dans l'esprit drag. Alors est-ce que c'est un rassemblement qui s'ouvre à tous, ou est-ce qu'au contraire il y a quand même une forme de, alors protectionnisme c'est un peu fort, mais un renfermement où ne peuvent s'inclure que les victimes de la société hétéronormée? Je m'explique. En fait, je pointais le doigt sur le fait que pour le moment, le drag est pratiqué par à peu près tous les profils des communautés LGBTQIA+, que ce soit des homosexuels, des lesbiennes, des trans, etc. Mais on ne trouve presque aucun drag hétéro cisgenre, c'est-à-dire ceux qui se reconnaissent tout simplement dans la norme. Est-ce que vous seriez plutôt enthousiaste à l'idée que les hétéros cisgenres, eux aussi, entrent dans le monde du drag, ou bien est-ce que vous pensez que ça doit rester un territoire d'expression LGBT?
Ils le font déjà, ça s'appelle le carnaval de Dunkerque. Non mais c'est vrai.
S'il vous plaît, me laissez pas là-dessus.
Non mais un jour j'ai vu une publication sur internet et ça m'a fait beaucoup sourire, oui, parce que je me dis, mais bon sang, en fait, on se prend la tête pour rien. Il mettait d'un côté une photo de drag queen en mettant « bah tiens, ça dérange tout le monde ». Et il mettait à côté des hommes au carnaval de Dunkerque, grimés comme des femmes. Et la légende, c'était « là, par contre, ça dérange personne ». Et en fait, c'est le fond de tarte, quelque part, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, en fait, aussi, lorsqu'il s'agit d'un homme qui se met en femme et ou d'une femme qui se met en homme. Et ça m'a fait sourire parce que je trouve que c'est très représentatif de l'état d'esprit actuel.
Mais alors du coup, si on parle plutôt de quelqu'un, un homme hétéro cisgenre qui voudrait vraiment pratiquer du drag, quoi, qui est complètement ouvert aux questions de la communauté LGBTQIA+, etc. Mmh. Est-ce que vous seriez plutôt enthousiaste à cet intérêt-là, ou est-ce que vous pensez que...
Let's go, girls.
Ah oui.
Ok, d'accord.
C'est ça. Du moment que c'est dans le respect et dans l'appréciation, je pense qu'il y a
aucun souci. En connaissant aussi l'histoire du drag, c'est peut-être. Enfin,
et du moment que la démarche est saine.
Ouais, et sincère.
Exactement.
Après, qu'il soit hétéro, homo, trans, enfin, peu importe comment on se définit, en fait, c'est la démarche qui compte.
C'est ça. Venez comme vous êtes, finalement.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, le drag, c'est un peu le McDo du milieu artistique.
C'est le McDo, ouais.
C'est le McDo du milieu artistique.
La pire qualification possible.
C'est ça, exact.
Nous, c'est le Big Mac, hein.
Ouais. Ouais, nous, on est le Big Mac.
Et ben merci beaucoup Brice alias Agathe de Power, Jonas alias Pecnotouf et Calypso alias Bibitrix pour être venu jusqu'au studio de Radio Alpa nous parler de votre drag et du drag en général. Merci beaucoup.
Bisous.
Merci.
Et pour finir, est-ce que vous pourriez simplement nous indiquer où est-ce qu'on peut consulter votre actualité et peut-être nous donner vos prochaines dates?
Bien sûr. Donc sur les réseaux sociaux, si vous voulez nous consulter personnellement chacune, moi sur Instagram c'est Bibitrix avec 2 E 2 X.
Moi sur Instagram aussi c'est pecno.touf, donc P-E-C-N-O comme un gros pecno et .touf, T-O-U-2-F-E.
En trois mots, Agathe de Power avec un P-A-W-E-R et j'y tiens personnellement. Pour nos prochains événements, nous nous retrouvons le samedi 23 ou 24 mars, j'ai un doute, je crois que c'est le 23.
Le 23.
À partir de 20h30, nous rendrons hommage à la destinée des années 2010. Par le biais d'un blind test, il y aura d'autres surprises. En mars, nous rendrons hommage à Lady Gaga.
Oh.
Au mois de mai, nous allons vraisemblablement tourner autour de l'Eurovision, qui est le week-end du 11 mai, qui est un grand week-end. Que dis-je, un viaduc. Et voilà ce que je peux vous dire pour le moment, mais notre saison 2024 est déjà bouclée.
Ouais.
Ça marche. Eh ben merci beaucoup. Il faut que j'enchaîne tout de suite sur les chroniques étudiantes parce que j'ai bientôt plus de temps. Donc c'est parti tout de suite pour les chroniques étudiantes. Salut Ismaël.
Salut.
De quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va parler des libertariens.
Ben c'est parti.
Donc il y a très exactement 20 ans, en février 2004, à Grafton, au nord-est des États-Unis, un projet assez original voyait le jour, la création d'une ville libertarienne. Faisons d'abord un petit détour sur ce qu'est le libertarianisme. Ce courant politique y devient important à partir des années 1970 avec la création du premier parti libertarien aux États-Unis. Il est influencé par des intellectuels tels que Murray Rothbard et Robert Nozick, et comme son nom l'indique, sa valeur centrale, c'est la liberté. Un libertarien, il veut que tous les individus disposent d'une liberté la plus large possible dans tous les domaines, économie, liberté d'expression, politique, propriété privée, etc. Dans cette perspective-là, restreindre la liberté d'un individu, c'est vu comme une grave offense et une faute morale. Et du coup, les libertariens, ils sont en général très opposés à tout ce qui touche de près ou de loin à la collectivisation, à l'État ou à la régulation en général. Pas d'impôts, pas de taxes, pas de cotisations, pas de lois. L'association entre les individus, elle doit rester complètement libre, volontaire, et elle ne doit pas être régulée par quelqu'un d'autre que les concernés. Ainsi, ils mettent en valeur la liberté de l'individu devant ce qu'ils considèrent comme l'oppression socialiste de l'État. Si on restreint la place de la régulation et de la collectivisation, bah, il faut bien trouver un autre système et une autre institution pour organiser les rapports entre les gens. Ce système, c'est le marché, le laisser-faire. Selon les libertariens, plus le marché est libre et dérégulé, plus la société, de manière générale, se portera bien. Pas besoin d'interdire de vendre certaines marchandises ou bien de limiter le temps de travail. Le marché y permettra de réguler et de déterminer ce qui est acceptable ou non. Si quelqu'un est prêt à payer, alors ça l'est. Déréguler le marché, en plus d'être une nécessité morale pour que les rapports entre les individus soient justes, c'est une nécessité organisationnelle. C'est-à-dire le meilleur mode de fonctionnement que la société puisse adopter. Comme tout courant idéologique, le libertarianisme, il a donc ses grands principes de base que je viens de présenter, qui sont reconnus par la très grande majorité de ceux qui s'en revendiquent. Par contre, après, les libertariens, ils ont eu plein de manières de réaliser concrètement ces principes. Un des exemples assez célèbres, c'est le projet Freetown, qui a été réalisé dans le village de Grafton en 2004. Grafton, c'est un petit village, une petite ville américaine, située en plein milieu du New Hampshire, tout au nord-est des États-Unis. Pour avoir une idée du paysage, on dit souvent du New Hampshire que c'est une région encore un peu à l'état de nature. Trois quarts du territoire de l'État est recouvert par des forêts de conifères remplies d'ours, et la population elle est à peu près deux fois moins dense qu'en Sarthe. À Grafton, en 2004, donc au début de la mise en place du projet Freetown, il y avait environ 1000 habitants. Faut donc imaginer que lorsqu'on vit à Grafton, on est assez isolé. Les villes les plus proches, elles se situent à plusieurs dizaines de minutes en voiture à travers des petites routes qui traversent les forêts. Et c'est précisément cet isolement qui a attiré les libertariens vers Grafton. Ils savaient qu'ils seraient tranquilles pour mettre en place leur projet, créer une vraie communauté libertarienne affranchie de l'oppression socialiste de l'État. Les premiers libertariens débarquent ainsi en 2004. Ils auraient pu partir de zéro et construire une ville, mais ils se disent à ce moment-là que ça sera plus simple de reprendre les infrastructures d'une ville qui existe déjà, en quelque sorte de la coloniser, pour la rendre complètement indépendante de l'État fédéral américain et y appliquer les principes libertariens. Évidemment, ils savent que ce projet ne conviendra pas à tous ceux qui habitent Grafton avant 2004. C'est pourquoi, lorsqu'ils s'installent, ils gardent dans un premier temps secrète la raison de leur venue auprès des habitants. D'un autre côté, ils s'activent sur les forums en ligne afin d'inciter le plus possible de camarades libertariens à participer au projet Freetown et à immigrer à Grafton. Ils se rendent alors compte qu'une très grande partie des habitants leur sont hostiles. Pourtant, ils décident quand même de rester à Grafton et de transformer peu à peu la ville pour réaliser leur utopie libertarienne. Ils avancent ainsi à petits pas et ils essayent d'influer la politique qui est menée à Grafton en poussant peu à peu leurs propositions. Certaines sont beaucoup trop absurdes pour être acceptées, comme par exemple la tentative de refuser l'autorité du rectorat de l'État, la condamnation du manifeste du Parti communiste ou l'abandon de la bibliothèque municipale. Par contre, d'un autre côté, ils remportent quelques victoires. Ils arrivent par exemple à réduire de 30% le budget municipal, à supprimer le financement du conseil des seniors de la ville et la commission municipale d'urbanisme. Tout ça dans l'objectif de réduire le montant des impôts payés par les habitants de Grafton. Ils arrivent aussi à gagner le droit de choisir comment ils stockent leurs ordures, chose qui sera très importante par la suite. En plus de s'investir dans la politique locale, les libertariens décident aussi de créer un petit quartier dans la forêt autour de Grafton. Dans ce quartier, qui ressemble plus à un camp de fortune qu'à une vraie zone résidentielle, à part le marché, aucune règle. La zone n'est pas surveillée et elle attire entre autres des criminels plus ou moins dangereux, amenant avec eux des drogues plus ou moins fortes. Les armes communes aux États-Unis, encore plus dans une région reculée comme celle de Grafton, y sont omniprésentes. Donc ça, c'est le programme de réforme des libertariens. Cependant, ce projet y déraille très vite. Les coupes dans les différents budgets municipaux, elles ont des conséquences désastreuses. Pour l'ensemble de la ville de Grafton, les effectifs de pompiers y sont réduits à peau de chagrin, seulement un seul pompier amateur. Les infrastructures publiques de la ville elles tombent en lambeaux, les conseils municipaux y sont de plus en plus conflictuels, et la tension entre libertariens et habitants de Grafton elle est à son comble. À cause de la très grande liberté laissée aux habitants du camp dans la forêt, les armes, la drogue et l'alcool circulent sans aucun autre contrôle que le marché. Un nombre inquiétant de criminels accusés d'agression sexuelle y trouvent asile. De plus en plus de désaccords émergent entre les libertariens et la vie commune à Grafton est de plus en plus conflictuelle. Les autorités de Grafton ont dû gérer un nombre croissant de rixes jusqu'au premier meurtre dans l'histoire de la ville depuis sa fondation en 1700. L'église de Grafton, qui est l'un des monuments historiques importants de la ville, a aussi beaucoup souffert de l'influence des libertariens. Reprise par un pasteur amateur avant leur arrivée, l'église se détériore de plus en plus, et les faibles fonds apportés par le conseil municipal, qui a ses budgets restreints, ne suffisent plus à entretenir la vieille charpente. Rafistolé de partout, la toiture fuit, il fait trop chaud en été et trop froid en hiver. Ce qui devait arriver arriva, et durant l'hiver 2016, un incendie se déclare dans l'église. Et suite aux réformes, il n'y avait plus qu'un seul pompier amateur à Grafton, et à plusieurs reprises, lors d'autres incendies, la ville elle avait déjà appelé au secours les pompiers des villes aux alentours, qui disposaient, eux, du matériel financé par les impôts de leurs administrés pour éteindre les feux. Ça n'a pas empêché l'église d'être détruite en grande partie par l'incendie, qui causa alors malheureusement la mort du pasteur. Et ironiquement, l'organisation qui finance sa reconstruction, c'est une association subventionnée par l'État fédéral. Une autre conséquence désastreuse de la politique libertarienne à Grafton, c'est les ours. Déjà difficiles à contrôler auparavant, les ours y deviennent complètement ingérables lorsque les habitants de la ville y peuvent disposer comme ils veulent de leurs ordures et ne peuvent pas être obligés par l'État et la municipalité d'utiliser des poubelles anti-ours. Attirés par les ordures, ces derniers y s'approchent de plus en plus près des maisons et ils envahissent littéralement la ville. Et là encore, ce qui devait arriver arriva, plusieurs personnes furent attaquées par des ours, chose qui n'avait jamais été vue dans l'histoire moderne du New Hampshire. Finalement, en 2016, les membres du projet Freetown ils doivent se résoudre à abandonner après 12 ans. L'expérience libertarienne à Grafton, c'est un échec cuisant. On pourrait facilement et à raison se moquer du résultat piteux du projet. Ce que je trouve plus intéressant, c'est de se demander ce que l'histoire du projet Freetown à Grafton nous apprend sur la vie en collectivité. Une des leçons importantes, au-delà évidemment du fait que c'est nécessaire d'avoir des lois contre la criminalité, c'est le fait que les sociétés humaines elles ne peuvent pas s'organiser sans aucune institution et sans se réguler. C'est évident que pour une ville, le financement de recherche d'urbanisme, la régulation du ramassage des déchets, ou dans le cas spécial de Grafton, la gestion des ours, ça doit être pris en charge par des institutions au nom du collectif. Et ces institutions, elles doivent être financées par la contribution collective, donc oui, les impôts et les taxes pour le bien du plus grand nombre. Une autre chose intéressante qu'on peut en conclure, c'est que l'organisation de la vie commune, elle ne peut pas se limiter simplement au financement de la police, de la justice ou de la défense, comme les libertariens ont un peu tenté de le faire à Grafton, ou même aux choses entre guillemets objectivement nécessaires, comme le ramassage des déchets ou l'urbanisme municipal. Sont autant, voire plus importants, l'existence de structures, de lieux, de toutes sortes de choses qui permettent à une communauté d'exister en tant que communauté, autrement que sous les rapports conflictuels du marché libre et de la concurrence. Une bibliothèque, un stade de football, une radio, comme par exemple Radio Alpa, une MJC, des monuments historiques, etc. Pareillement, ces structures, elles doivent être financées par la contribution collective au nom du bien du plus grand nombre. Et donc, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur cette histoire un peu rocambolesque du projet Freetown, je vous invite à lire le livre « Chacun pour soi » de Matthew Ongoltz Etling, qui est une enquête sur le projet Freetown, qui a été publié aux éditions Artaud en 2023.
Merci beaucoup Ismaël pour ta chronique et pour nous avoir raconté l'histoire de Grafton, c'est ça ?
Grafton.
Grafton, ouais. Je ne le connaissais pas du tout, donc merci beaucoup, j'ai appris des choses. Merci à Ismaël pour sa chronique et merci à vous d'avoir suivi l'Amphi. On se retrouve mardi 12 mars avec un des intervenants des Carrefours de la Pensée, mais on parlera aussi de la semaine dédiée aux droits des étrangers. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.
Étudiante.
Radio Alpa, l'alternative.